Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Deuxième fin de semaine de mars 2024, ici Alex Baillargeon, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes du 88.3 CFAC à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Radio universitaire préférée. Content de vous retrouver cette semaine. En plein jeu du Québec, du côté de Sherbrooke. Compétition... Basson plein se termine cette fin de semaine. Des jeunes de toutes les régions du Québec sont venus compétitionner dans différents sports. Il y a un sport en particulier qui a eu la vie dure, j'ai envie de dire. C'est le ski de fond. Compétition extérieure et avec le climat qu'on a de ce temps-ci, c'est pas vargeux pour du ski de fond. Donc, on peut évidemment saluer les bénévoles qui se sont occupés de cette piste de ski de fond-là. Avec les 15 degrés qu'on a eus entre la journée de compétition et la préparation de l'événement. La pluie, l'averse de pluie la veille de la journée. D'avoir été capable de faire une neige qui se peut pour du ski de fond, pour que ce soit juste de la glace un peu dure, relève de l'exploit, donc chapeau à eux. Et évidemment, normalement, est-ce que ça existe encore? Logiquement, quand on sort d'un mois de février, on est supposé sortir du mois le plus froid de l'année, du mois qu'on grelotte, qu'on gèle, parce que c'est humide, il fait froid, on n'aime pas ça le mois de février d'habitude. Quand on dit que cette année, surtout dans le sud, Québec, il y a peut-être un petit peu plus... Il a fait froid, mais pas si froid. Mais dans le sud du Québec, Sherbrooke, les journées qu'on aurait pu se mettre en short... Au mois de février, c'est pas tout à fait logique et normal. Au Québec, je le rappelle. Février a été le 9e mois consécutif en record de chaleur sur Terre. Ça fait 9 mois en ligne que les températures sont toutes un peu plus chaudes sur la planète. Souvenez-vous, il y a peut-être maximum 5-6 ans. Il y avait eu un mois de février où il avait fait chaud partout sur la planète, sauf au Québec, où ça avait été le mois le plus froid depuis très longtemps. L'espèce de graphique qu'on nous montrait, c'était un gros rond bleu, un gros ovale bleu. Sur le Québec, un petit peu le Nouveau-Brunswick, mais tout le reste était dans le rouge. De 0,5, 1 degré plus chaud que la normale, mais nous autres, on avait été les seuls que ça avait été plus froid que la normale. Mais là, cette année, on n'est pas exclus. Nous aussi, on se réchauffe au Québec. J'en ris, mais il n'y a rien d'autre. La Terre a battu des records de chaleur à l'échelle mondiale. Pour le mois de février 2024, l'ensemble de la planète, des océans, ont établi de nouvelles marques de température élevées selon l'Agence climatique de l'Union européenne, Copernicus. Parmi les derniers records battus dans le cadre de cette vague de chaleur mondiale, les températures des surfaces des océans n'ont pas seulement été les plus chaudes du mois de février, mais ont éclipsé tous les mois enregistrés, dépassant la marque de août 23. Donc, quand on dit les 9 derniers mois ont été les plus chauds, même août s'est dépassé. Le mois de février ainsi que les 2 mois d'hiver précédents ont largement dépassé le seuil fixé au niveau international pour le réchauffement à long terme. Donc, on sait qu'il y a réchauffement, mais on est capable de le faire encore plus vite que ce qui est acceptable pour qu'on s'en aille pas dans le champ trop vite. Le dernier mois qui n'a pas établi de record de chaleur a été mai 2023, juste derrière 2020 et 2016. Les records de Copernicus sont tombés régulièrement depuis juin l'an dernier. Donc, à chaque mois, tout était un peu plus chaud. En février 2024, la température moyenne a été de 13,54 Celsius, battant l'ancien record de 2016 d'environ 1/8 de degré. La réponse à ma question de tantôt, c'était 2016, où il y avait eu réchauffement partout, sauf au Québec. En tout cas, j'imagine que c'est la même, c'est le même graphique. Ça ferait du sens. 8 ans, ça ferait du sens. Selon les calculs Copernicus, le mois de février a été le plus chaud de 1,77 degrés Celsius que la fin du 19e siècle. Seul le mois de décembre dernier a été plus chaud que février par rapport au niveau pré-industriel. Donc, et février, qui est déjà froid, et décembre, ensemble, sont les plus chauds du dernier siècle. La fin du 19e siècle. C'est quand même important. Les climatologues affirment que la majeure partie de ce record de chaleur est due au changement climatique provoqué par l'homme et aux émissions de dioxyde de carbone et de méthane provenant de la combustion de charbon, pétrole et gaz naturel, évidemment. La chaleur supplémentaire provient du phénomène naturel El Niño, un réchauffement du Pacifique central qui modifie le schéma météorologique, les schémas météorologiques mondiaux. Compte tenu de l'intensité du phénomène El Niño, depuis le milieu de 2013, il n'est pas surprenant que les températures mondiales soient supérieures à la normale, parce que El Niño pompe la chaleur de l'océan vers l'atmosphère, ce qui fait augmenter les températures de l'air. Moi, j'ai toujours en référence, début 2000, El Niño était présent. Il faisait un peu plus chaud au Québec. J'ai pas de souvenir tant que ça. J'avais 8 ans. Mais je me souviens que El Niño faisait déjà parler à cette époque-là. Mais en même temps, les années 90, on venait de sortir des alertes de pluie acide et tout ça. Fait que on commençait déjà à poser la question. Ah, changement. On parle encore de seulement réchauffement climatique, donc là, la chaleur venait en ligne de compte. Mais en ce moment, c'est des changements climatiques. Parce que c'est pas, il faut le répéter, c'est pas seulement le fait que la température se réchauffe. Oui, ça fait partie, mais ça fait en sorte qu'il y a des changements climatiques. Parce que c'est pas seulement la température qui est affectée, c'est les océans, c'est l'atmosphère, etc. El Niño pompe la chaleur de l'océan vers l'atmosphère, voilà ce qui fait augmenter la température, mais l'ampleur des records battus est alarmante. Parce que normalement, c'est prévu, c'est un cycle, c'est les courants marins, donc El Niño, c'est prévu qu'ils reviennent. Mais le fait qu'avec El Niño, en plus de l'activité humaine, fait en sorte que le climat est différent, que les températures sont différentes et sont à la hausse. Il y a un point chaud. Nous constatons également l'existence d'un point chaud au-dessus de l'Arctique où le réchauffement est beaucoup plus rapide que sur l'ensemble du globe, ce qui entraîne une cascade d'effets sur les pêcheries, les écosystèmes, la fonte des glaces et la modification du courant océanique qui ont des conséquences durables et de grande ampleur. » niveau des océans et des inondations qui s'en viennent, notamment, mais justement que les pôles sont en train de fondre, c'est pas des bonnes nouvelles non plus. Selon Francesca Guglielmo, climatologue senior chez Copernicus, les températures records de l'océan en dehors du Pacifique, où se concentre normalement le phénomène El Niño, montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un effet naturel. Parce qu'encore une fois, ça se peut, El Niño existe, mais il y a un supplément humain. La température de la surface de la mer dans l'Atlantique Nord, donc là on est l'autre bord de l'Amérique, a atteint un nouveau record par rapport à une date précise, chaque jour pendant une année entière depuis le 5 mars 2023. Souvent avec des marges apparemment impossibles, selon Brian McNulty, spécialiste des sciences tropicales à l'Université de Miami. Ces autres zones océanographiques sont un symptôme de la chaleur piégée par les gaz à effet de serre qui s'accumulent depuis des décennies. Cette chaleur émerge maintenant et pousse les températures de l'air vers des territoires inexplorés. Ces températures anormalement élevées sont très inquiétantes, selon Nathalie Mahowald, climatologue à l'Université de Cornell. Pour éviter des températures encore plus élevées, nous devons agir rapidement pour réduire les émissions de CO2. Parce que si ça, ce n'est pas réglementé, si ça, ça on laisse ça aller en faisant confiance au bon vouloir des industries, bien justement, il n'y a pas de limite. On continue à envoyer du CO2, on continue à faire en sorte que la température se réchauffe. Décembre, janvier, février, cet hiver, plus chaud du près. Cet hiver a été le plus chaud de près d'un quart de degré, battant 2016, qui était également une année El Niño. La période de 3 mois a été la plus chaude jamais enregistrée au cours d'une saison par rapport au niveau pré-industriel dans les archives qui remontent à 1940. Il n'y a jamais fait aussi chaud dans le seul hiver en ce moment. Qu'au niveau... Attends, la période de 3 mois était la plus chaude jamais enregistrée. Voilà, il n'y a jamais fait aussi chaud dans ces 3 mois-là d'hiver que depuis qu'on tient les données de température depuis la pré-industrie 1940. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'être sur le gazon en décembre parce qu'il pleut. C'est oui, la journée d'après, il neige, mais le surlendemain, il fait 8, puis fait gros soleil, fait qu'il en reste déjà plus de neige. À pareille date l'an dernier, bon, oui, il y a une différence entre Québec et Sherbrooke, mais à pareille date l'an dernier, il y avait des bancs de neige à Québec, à des bonnes hauteurs, là, à des hauteurs de... mettons, un gros tas de neige, là, accumulé, déneigé tout au long de l'hiver. On en avait jusqu'à la taille, là, encore. Cette année, on n'est pas tout à fait là. Fait que c'est à prendre en considération. Sur une échelle de 1 à 10, pour évaluer la gravité de la situation, selon selon Mme Francis, c'est laquelle ça, Mme Francis? Il y avait beaucoup de gens dans l'article que je vous cite. Jennifer Francis, climatologue au Woodwell Climate Research Center, donc sur une échelle de 1 à 10, pour évaluer la gravité de la situation, elle donne à ce qui se passe actuellement un 10. Mais bientôt, nous aurons besoin d'une nouvelle échelle, car ce qui est un 10 aujourd'hui sera un 5 à l'avenir, à moins que la société ne parvienne à stopper l'accumulation des gaz qui retiennent la chaleur. Et ça, c'est une notion intéressante, parce que oui, bon, on parle de CO2 et tout ça qui retient la chaleur, et c'est cette chaleur retenue qui persiste, qui reste, qui fait en sorte que ça devient que la température est plus chaude. J'essaie de ne pas me tromper. Donc, oui, en réglementant, en faisant en sorte qu'il y en ait un peu moins, t'sais, en obligeant ces industries-là à faire attention, à prendre les mesures nécessaires, parce qu'il existe des manières de réduire ces gaz-là. Mais après ça, encore une fois, de faire confiance à la bonne volonté de ce monde-là, de dire « Oui, oui, faites l'effort, tu sais, aidez-nous à aider », ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Faut mettre des restrictions. Puis s'ils menacent de s'en aller, bien, s'ils décident juste d'être de mauvaises industries, bien, Colin, que dire de plus? C'est sûr qu'on veut pas nécessairement qu'il y ait des fermetures. Mais en même temps, si ce sont de mauvais payeurs, si ce sont de mauvaises industries qui font exprès, entre guillemets, pour polluer, est-ce qu'on en veut tant que ça? Non, c'est pas bon pour les emplois, évidemment. Délocaliser des entreprises parce que les patrons ne veulent pas investir le montant qu'on leur demande, ça va faire mal, c'est sûr. Mais après ça, est-ce qu'on peut se permettre encore en 2024 de faire n'importe quoi avec l'environnement? Faut commencer à se poser la question. Et dans la catégorie faire n'importe quoi avec l'environnement, semble-t-il qu'on a un ministère de l'environnement au Québec, même si son représentant, qui est Benoît Charrette de la Coalition Avenir Québec, dit « Oui, monsieur » à Fitzgibbon, ministre de l'innovation, semble-t-il, et s'écrase devant Nordvolt, comme on a pu l'apprendre cette semaine. On va en parler au retour. On continue en environnement et en Nordvolt, parce que plus ça avance, et de moins en moins Nordvolt commence à être un bon projet. Bien, c'est pas un mauvais projet, mais la CAQ cache tellement de choses que ça, on commence à se demander si c'est réellement un bon projet. On en parle ici même au deuxième service, tout de suite après cette courte pause. Vous écoutez le 88.3 CFAQ et le 94.3 à Québec. Radiant Baby ou Radiant Baby. J'ai eu un petit doute mort de rire qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFA 88.3 de chez 94.3. On dirait que plus les semaines avancent, plus il y a de... On y va de rebondissement en rebondissement. Peut-être est-ce que Pierre Fitzgibbon a hâte que Thomas Gerbet prenne sa retraite du côté de Radio-Canada. Ce qui ne sera pas le cas, parce que si la CAQ arrêtait de cacher autant de détails à propos de Nordvolt, justement, Thomas Gerbet pourrait prendre sa retraite, mais ce n'est toujours pas le cas. Il avait ouvertement critiqué, ou publiquement critiqué, je devrais dire, des journalistes qui regardent le travail qu'il fait, puis ça, Pierre Fitzgibbon, il n'aime pas ça, se faire dire que son travail n'est pas bien fait. Il est pas mal fait, mais dans le secret, dans les cachettes, dans les non-dits, dans les demi-dits, c'est sûr que la méfiance des gens va finir par embarquer. Veux, veux pas, on arrive quand même d'un passé pas si lointain où il y avait des commissions d'enquête sur des contrats qui se donnaient entre chemins, où une certaine Sonia Lebel, aujourd'hui, membre de cette coalition Avenir Québec et ministre, doit défendre son gouvernement en disant « Ben non, on fait pas ça en dessous de la table, voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Ce qu'elle dénonçait dans une certaine commission Charbonneau. Ou au fédéral, certaines commissions Gomery, où justement des commandites avaient été mis de l'avant. Scandale des commandites dans un autre nom. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, plus ça avance dans la chronologie de Nordvolt, plus on se rend compte que oui, bon, le projet était en chantier depuis quelque temps. Il y avait des rencontres à demi-secrètes tenues avec Fitzgibbon avant que Nordvolt devienne des lobbyistes qui ont été tenus. Dans la nomenclature également des événements, on avait assoupli les règles du Bureau de la protection de l'environnement pour permettre la construction plus rapide de Nordvolt. Des gens du ministère de l'Environnement avaient aidé Nordvolt à remplir des formulaires à ce que ces demandes-là soient faites plus rapidement. Et c'était une condition de la compagnie d'avoir une usine le plus vite possible si on réussissait à contourner quelques règles. Au dernier chapitre, c'est long de faire la nomenclature, mais quand même. Au dernier chapitre, on avait des projets immobiliers qui devaient se tenir sur les terrains que vont occuper Nordvolt, qui ont été mis de côté parce que, semble-t-il, à ce moment-là, il y avait un petit oiseau qu'il fallait protéger à cause de son milieu humide. Quelques semaines, mois auparavant, un projet immobilier n'avait pas de sens. Soudainement, Nordvolt, lui, avait le champ libre parce qu'il allait miraculeusement se construire à côté du Blongio. Et si jamais on touchait au Blongio, on allait rétablir le tout d'ici les 11 prochaines années. Finalement, cette semaine, Benoît Charrette, accessoirement ministre de l'Environnement de la Coalition Avenir Québec, avouait avoir délibérément aidé Nordvolt à éviter l'examen du Bureau d'audience publique. J'arrête pas de l'appeler protection de l'environnement, mais c'est Bureau de l'audience publique en environnement, par crainte de perdre Nordvolt. Donc, si on se donnait un an et demi pour que le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, prenne le temps de répondre aux questions, de répondre aux doléances, de lire des mémoires, de faire sa job de ministère de l'Environnement qui a un bureau d'audience publique, ben ça faisait en sorte qu'on retardait l'urgence de Nordvolt de se construire à tout prix. Depuis plus de 6 mois, le gouvernement Legault nie sur toutes les tribunes avoir permis au méga projet de batterie de bénéficier de processus d'autorisation accéléré. Or, finalement, Benoît Charrette dit qu'on a peut-être contourné une ou deux règles normales. On nous accuse d'avoir changé les règles pour Nordvolt plus éviter un BAP, ce qui est faux. Se défendait encore Benoît Charrette la semaine dernière, 27 février, en critiquant les médias de ne pas être gentils avec lui. La ligne de communication a changé cette semaine. Le gouvernement affirme maintenant que le projet ne serait pas réalisé au Québec s'il avait fallu la soumettre au maudit BAP. Si on n'avait pas pu donner de réponse à l'entreprise, que ce soit Nordvolt ou un autre, avant 18 ou 24 mois, donc calculons ici qu'un année de plus, on est rendu à 36, c'est certain que ces entreprises auraient retenu un autre lieu pour s'implanter. Comme je le disais tantôt, est-ce que c'est si mal que ça? Si une entreprise choisissait une autre place. Surtout parce qu'on commence à parler qu'en électricité, on va avoir des problèmes pour alimenter tout le monde. Donc, est-ce qu'on a réellement les reins assez solides avec Hydro-Québec pour alimenter une méga usine quand on est déjà en train de se demander si on va être capable de nous autres tout être corrects? Tu sais, est-ce que Nordvolt, tu sais, on comprend que Nordvolt veut, le projet Nordvolt se veut être le legs de François Legault pour la postérité d'avoir amené un immense projet au Québec. Mais est-ce que c'est le bon immense projet de François Legault? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'au premier signe de faiblesse, Nordvolt va juste faire « Bon, ben on va y aller, nous autres. » Tu sais, il y a cette possibilité-là aussi que l'usine à m'amener, si elle finit par voir le jour, si elle finit par réussir à commencer à faire de quoi, rien lui empêche à m'amener de faire comme « Bon, ben on a fait ce qu'on avait à faire. On va y aller, nous autres. » Fait que tu sais, le leg à long terme de François Legault, là, j'aurais misé sur peut-être quelque chose d'autre. Dans une déclaration écrite publiée mercredi cette semaine, l'entreprise suédoise confirme des informations rapportées par la presse et admet avoir demandé à Québec de relever un seuil qui aurait pu avoir effet d'assujettir une partie de son complexe industriel à l'examen du BAP. En février 2023, le gouvernement voulait établir des règles spécifiques à la filière batterie. Pour les usinages d'assemblage, Québec avait choisi un seuil à 30 gigawatt-heure. Or, 30 gigawatt-heure, c'est exactement la capacité de l'usine de Northvolt. Comme par hasard, le gouvernement a ajouté une spécificité pour que, Northvolt rentre parfaitement dans cette case-là. Le hasard, toi! Nous proposons d'amender le seuil capacitaire de production de batterie à une valeur égale ou supérieure à 40 gigawatt-heure sortie usine, écrivait Northvolt dans son message au gouvernement qu'elle a rendu public. Finalement, Québec a retiré le changement de proposé et aucun seuil n'apparaissait dans la version finale du règlement publié en juillet dernier. Je n'ai jamais dit que nous avions aidé l'entreprise à éviter un BAP, affirme le ministre Charrette à Radio-Canada. C'est que le Québec ne dispose pas d'une réglementation pour favoriser l'implantation d'une filière batterie. C'est ce que nous avons développé au cours de la dernière année. Évidemment que dans les règles du Québec, il n'y en a pas concernant les usines de batterie. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, des usines à batterie de char, parce que les batteries de char ne sont pas en demande autant que ça récemment. Fait que c'est normal qu'il faut mettre des seuils, et comme par hasard, les seuils que Québec met, ben, ils ont rapport avec l'usine de batterie qui veulent absolument enfoncer dans la gorge du monde en disant que c'est un projet si extraordinaire. Mais est-ce que ce projet-là est si extraordinaire que ça? La question se pose. L'élément central, c'est cette course à l'échelle mondiale, autant au niveau de la décarbonisation qu'au niveau de l'implantation de ces projets. Parce qu'évidemment, on se défend en disant que grâce à l'usine de batterie, il y aura plus de chars électriques. Mais pour arriver à ça, on n'est pas encore rendu. T'sais, oui, c'est du long terme, mais dans l'immédiat, il y a des règles qu'il faudrait qu'ils soient respectées. Mais malheureusement, le ministère de l'Environnement est accessoire à ce que les entreprises et les projets de Fitzgibbon passent comme si de rien n'était. Donc, Benoît Charrette ne sert à rien. C'est un peu grossier, mais ça ressemble à ça. Parce que normalement, si le ministère de l'Environnement du Québec avait fait sa job en disant c'est parce que si on laisse ça passer pour Northvolt, le prochain qui va arriver en disant « Oui, mais Northvolt, eux autres, ils ont eu un passe-droit, ben on va être obligé de leur donner. » Ben c'est ça qui va arriver. À chaque nouveau projet, « Oui, mais Northvolt, eux autres, ils ont eu des accommodations. Oui, mais Northvolt, oui, mais Northvolt. » Donc, on ouvre la possibilité à ce que, justement, « Oui, mais l'autre » fasse en sorte que, justement, il pourrait y avoir des entreprises établies qui font comme « Oui, mais Northvolt, eux autres, qui sont pas encore là, ils ont des bénéfices que nous autres, qu'on est là depuis tant d'années, on n'a pas. Pourquoi nous, on ne l'aurait pas? » Qu'est-ce qu'il dit? La fonderie Horn en Abitibi, pourquoi elle ne pourrait pas s'appuyer sur Northvolt en disant « Oui, mais Northvolt, eux autres ont ça, pourquoi nous, on ne l'a pas? » Et que nous, on est obligés de réglementer la pollution qu'on fait. C'est de s'ouvrir à des problèmes et c'est s'ouvrir à justement, ben ça fait jurisprudence, c'est de s'ouvrir à laisser passer n'importe quel projet parce que Northvolt a eu un traitement privilégié que les autres n'ont pas. Et règle générale, c'est ça qui arrive. On sera à quelques instants. Au retour, la suite de ce deuxième service. En cette fin de semaine de mars, en cette deuxième fin de semaine de mars 2024, vous écoutez le 88.3 CFAQ et 94.3 à Québec. De retour au deuxième service Valence qu'on vient d'entendre en musique. Au moment d'enregistrer l'émission, on est le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, pour se remémorer qu'il y a beaucoup de luttes qui ont été gagnées, mais il en reste également beaucoup à faire. Et dans le milieu municipal et dans le milieu politique, un peu partout. Mais au Québec, entre autres, ce n'est pas encore gagné. Un rapport est sorti vendredi, justement. Plus de femmes en politique municipale, mais aussi plus de harcèlement, selon un rapport qui décrit les préoccupations, les tendances auprès de tous les élus municipaux québécois. C'est un nouveau rapport de la Fédération québécoise des municipalités qui dépeint une augmentation de, oui, femmes élues dans les conseils municipaux, mais hausse d'élus qui disent avoir également vécu du harcèlement psychologique ou de l'intimidation. Depuis 2017, le nombre de femmes élues conseillères municipales a augmenté d'environ 7 % de sorte que près de 40 % des conseillers au Québec sont du sexe féminin. Donc, pratiquement la parité, pas tout à fait, mais on s'en vient à la parité. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'on entend dans les derniers mois, les dernières semaines, de justement les conseillères et les mairesses qui démissionnent les unes après les autres, ça donne pas nécessairement le goût non plus à ce qu'une autre femme fasse « Hey, moi, je vais y aller. Moi, ça me tente de me faire traiter de niaiseuse ces réseaux sociaux puis de me faire appeler chez nous pour me faire donner de la marde. Moi, ça me tente d'y aller en politique municipale. » C'est pas encourageant, effectivement. L'augmentation notable de 6 % pour les femmes élues mairesse, c'est près du quart des municipalités qui ont vu à leur tête une femme, notamment, évidemment, Montréal, Sherbrooke, Longueuil, Gatineau, Saguenay, etc. C'est un gros vent de changement, résume Lynn Fréchette, mairesse de Sainte-Marjorie-de-Grande-Tame, où sur 6 conseils municipaux, 4 sont des femmes. Elle raconte que lors de son premier mandat, lorsque son conseil était majoritairement masculin, les priorités n'étaient pas les mêmes qu'avec des conseillères autour de la table. On parlait plus d'asphalte. On parle maintenant de bien-être de la population. Ce qui est un gros changement, mais qui en dit long quand même sur les priorités de tous et chacun. Rouler avec son char ou que les parcs soient embellis. Qu'on ait le goût d'aller dehors. T'sais. On voit les préoccupations. La mairesse de Saint-Jean-Baptiste, où il y a parité entre les 6 conseillers municipaux réenchéris, les enjeux sont de plus en plus partagés avec les hommes. Le rapport décrit effectivement qu'une insatisfaction grandissait à l'égard de la conciliation travail-famille, peu importe le sexe. 40 % des hommes qui ont répondu à ce sondage-là affirment éprouver des difficultés par rapport à la conciliation. Le rapport pour lequel 615 élus ont été sondés suggère même que cette préoccupation grandissante des hommes élus, contribuerait à la tendance et à la hausse de femmes élues. Il semblerait donc que la situation de 2023 découle d'une détériorisation de la situation des hommes face à la conciliation famille-travail, ayant mené en quelque sorte à un rattrapage. Les auteurs du rapport prennent la peine d'ajouter qu'il est possible que cette tendance soit attribuable à une grande sensibilisation de la gente masculine, mais en même temps, c'est pas complètement rare. On l'a vu à l'Assemblée à Québec, avoir un député homme avoir son bébé avec lui, parce que c'est ça, la conciliation famille-travail, c'est de s'occuper des enfants, hommes et femmes égales, le père et la mère vont s'occuper de l'enfant. Il y a plus de jeunes en politique, la plupart ont de jeunes enfants à charge. Parce que vient un temps, un moment donné, que oui, la moyenne d'âge, la moyenne d'âge diminue également, donc oui, on va avoir les députés, que leurs enfants sont grands, sont dans la vingtaine, trentaine, quarantaine. Mais il reste encore que les députés plus jeunes, eux, commencent à fonder des familles. Il faut les prendre en considération également. Le harcèlement psychologique est non seulement plus présent qu'auparavant dans la vie des élus, mais il demeure aussi l'enjeu le plus souvent souligné par les personnes répondantes. 39 % des répondants disent avoir vécu au moins une fois une situation en lien avec du harcèlement dans leur parcours politique. 28 % dans le précédent rapport de la Fédération des municipalités en 2017. C'est-tu ça, FQM? Oui. Toujours selon le document, les jeunes élus ainsi que les maires seraient plus susceptibles d'être des cibles. T'es ben trop jeune pour être là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais rien? T'as jamais travaillé de ta vie? Blablabla. C'est pas vrai qu'un jeune va me dire quoi faire? Blablabla. Ce genre de commentaires. La population est moins patiente qu'elle l'a peut-être déjà été. Je rajoute le peut-être. Elle veut des réponses immédiatement. Elle demande des changements, mais elle a peur du changement. C'est un bon résumé. Marilyn Nadeau croit que des citoyens comprennent parfois mal le rôle des élus. Elle souhaite plus de pédagogie citoyenne à leur égard, à cet égard. Je pense que dans le temps, on n'a pas pris la balle au bon. C'est pas complètement fou. Les élus des petites municipalités ont également de plus en plus d'altercations en personne avec des citoyens ainsi que des collègues élus. C'est la proximité des petits milieux qui expliquerait cette tendance. La récente décision du maire des Éboulements, une municipalité de 1300 personnes en Charlevoix, fait écho à cette réalité. Il faut être en mesure psychologiquement et mentalement de faire face à la musique avec son conseil à ma population. J'avais atteint mon niveau de saturation et de tolérance, résumait Pierre Tremblay lorsqu'il a annoncé en début de semaine qu'il allait se retirer de ses fonctions aux Éboulements. Un autre élément serait en cause le cadre légal des élus. Le cadre légal des élus, des employés municipaux, de celui des employés du municipal. Les élus ne sont pas soumis au règlement sur le harcèlement au travail établi par les municipalités pour protéger les employés des citoyens et maintenir un environnement de travail respectueux. Et si ça, ça s'avère vrai dans plusieurs municipalités, c'est complètement absurde. Ça voudrait dire que les employés de l'hôtel de ville ont le droit de se faire respecter. Dans le sens où, par exemple, si on va pour payer une contravention, il y a un petit avertissement de « Nous ne tolérerons pas le langage abusif. Veuillez vous adresser civilement au monde. C'est pas vrai que vous allez embellir la situation si vous engueulez avec les responsables du bureau. » Ça voudrait dire qu'un conseiller municipal ou un maire, une mairesse sort de l'hôtel de ville et a le droit de se faire engueuler par un citoyen qui passe. C'est d'une absurdité. On comprend qu'il y a des gens qui prennent ça beaucoup à cœur. Mais ça ne justifie en rien et jamais le droit qu'à ces personnes-là vont se faire traiter de nom, vont se faire engueuler sur la rue ou vont se faire écrire des insultes sur les réseaux sociaux parce que pas d'accord avec la décision ou pas d'accord avec les idées de la personne. Ça, c'est inacceptable. Et peut-être, malheureusement, il y a des gens qui s'en permettent plus parce que ce sont des élus, eux, ou des mairesses et qui se disent, ben ils ont juste à se renforcer ou ils ont juste à se développer une carapace. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas aux mairesses et aux élus à être plus tolérantes et à laisser passer plus les insultes parce qu'un homme l'aurait fait, lui, aurait rien dit. Ben non. Ben non. C'est pas une défaite, c'est pas une raison. Au contraire. Tout agissement de la sorte, tout harcèlement de la sorte n'a pas sa place. Point. Ah, il a pas les reins assez solides, elle a pas les épaules assez fortes. Franchement. Justement, dans cette ambiance-là de peu de patience, il va falloir commencer à y penser. Là. C'est recommencer à avoir de la patience. Collectivement, ça pourrait peut-être déjà être un bon début. Et mon téléphone sonne. Bon, on s'arrête quelques instants. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. De retour au deuxième service, les Kinked, dis-je bien, qu'on vient d'entendre en musique avec Migration. Difficile de passer à côté. Bon, on l'a longuement appris cette semaine, mais on a appris le décès de Paul Oud la fin de semaine dernière. Donc, après avoir été opéré, il y Il y a eu des complications. Malheureusement, il y a eu des problèmes au cœur et il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi la semaine dernière. Rien ne laissait présager à ce que ça arrive. À preuve, même son frère Pierre Roud était en entrevue à Radio-Canada pour parler qu'il allait faire la description de la Formule 1. C'était, sauf erreur, l'une des premières courses de la saison qui commençait son mandat du côté de RDS. Bon, il s'est retrouvé malgré tout en onde ce matin-là, mais avec un drôle de sentiment, certainement. C'était pas connu, c'était pas su que... on savait que Paul Oud était absent depuis quelques semaines à la radio, notamment justement à Radio-Canada, la journée est encore jeune. Il était chroniqueur, collaborateur, puis bon, ça faisait quelques semaines qu'on ne le voyait pas, mais l'auditeur, les gens, le public ne savaient pas en tant que tel que c'était plus grave. Ben grave. C'était une opération certainement de routine, quoique c'était une tumeur qu'il avait au cerveau, mais qui... Ne le dérangeait pas, au sens où ça n'affectait pas ses connaissances, son parler ou quoi que ce soit. C'était problématique, mais c'était pas non plus dérangeant, entre guillemets. Mais il fallait qu'il soit opéré. Il avait été opéré en début de semaine. À la fin, ben, il y a eu ces complications-là qui ont fait en sorte que son cœur s'est arrêté. On l'a vu avec notamment à nouveau son frère, à Tout le monde en parle, le dimanche suivant, où il a accepté d'être sur le plateau et livré probablement l'un des moments les plus marquants de cette soirée-là, qui disait qu'il allait éventuellement travailler avec son frère, mais que malheureusement, ça ne se passerait pas. Et il y a eu un petit moment d'émotion qui était, bon... Il s'excusait d'être ému, mais au contraire, c'était vraiment le petit frère qui perdait son grand frère pour justement des éventuels projets qui ne verront jamais le jour, malheureusement. Paul Oud, c'est un monsieur de radio qui connaissait à peu près tout, littéralement. On pouvait lui demander une date, une statistique ou une météo de très précise et il la savait par cœur. C'était une encyclopédie à lui seul. Plusieurs ont fait cette comparaison-là d'être une encyclopédie vivante, que le livre de Paul Oud s'était refermé cette fin de semaine-là et que probablement ce genre d'encyclopédie-là ne se reverrait peut-être jamais, un peu à l'image des encyclopédies papier. Lui-même qui tenait des journaux, qui probablement sont tous entreposés à quelque part, où il notait dans ses agendas la météo, la température, il notait plein de choses dans ses agendas, et qu'il les avait tous. Il savait à telle date, en regardant où il était, qu'est-ce qu'il avait fait cette journée-là, etc., etc. C'est un travail minutieux qui malheureusement ne se reverra peut-être jamais plus. Plusieurs témoignages ont été faits, notamment Paul Arcan, au 98.5 également, ancien collègue. Je savais qu'il était malade, qu'il avait une chirurgie, mais je ne pensais pas que ça... Mais je pensais que ça allait bien. C'est un choc d'apprendre une mort aussi subite. Ça a été d'abord un collaborateur de travail, mais c'est devenu rapidement... un ami personnel, c'est un travailleur, quelqu'un qui préparait tout avec minutie. C'était un gars drôle, super sympathique, qui a de bons souvenirs avec lui. Il a été longtemps animateur de Radio du Matin dans le Grand Montréal. Il a été notamment à Rythme FM, il a été au FM 98 avant qu'il le sac dehors. Il a tenté l'automne dernier de réanimer une émission du matin du côté de BPM Sport à Montréal, mais probablement justement que la charge de travail était trop intense. Il est parti après quelques semaines, mais en même temps, Il avait 69 ans. C'est pas complètement facile de se lever à tous les jours à 3 heures du matin pour aller faire de la radio 3 heures de temps. C'est de la job. Fait que peut-être le rythme était un petit peu trop demandant pour lui, mais en même temps qu'on connaît aujourd'hui ses ennuis de santé, on peut se douter que ça a peut-être été influencé. C'est ça, il a terminé la semaine, les fins de semaine au FM avant de s'être fait mettre dehors par la chaîne. Il était devenu, bon c'est ça, plus récemment collaborateur dans les émissions de Jean-Philippe Vautier, notamment Merci Bonsoir. Bonsoir plutôt, à Radio-Canada Télé et à La Journée est encore jeune sur les ondes d'ici première. Donc, Paul Oud, un énorme monsieur, un énorme petit monsieur qui, rempli de connaissances qui malheureusement s'est éteint dernièrement. On lui doit également ses rôles dans Les Boys, outre sa carrière radio, mais également, bon, c'est nombreux. Ben, les Boys au cinéma, ses apparitions télé, notamment avec Marc Labrèche également, La fin du monde à 7 heures, 3100 secondes d'extase, plus récemment également, son talk show Je viens vers toi. Donc, un monsieur important de la culture québécoise qui n'est plus et plus, de manière plus nichée, animateur de lingo à une autre époque. 1954-2024, Paul Oud. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. Pour les gens de Sherbrooke, je donne rendez-vous ce soir, 18h, pour la suite de la couverture des Jeux du Québec au récap CFAQ. À la semaine prochaine. Salut.